chronique 1001 pages, on retrouve à distance Frédéric pour son regard sur l'actualité littéraire au retour du Salon du Polar à Lens. Frédéric, tu as deux livres et donc deux auteurs à nous recommander cette semaine.
Oui Nico, et ils sont plutôt excellents, les deux que je vais vous recommander, choisis parmi un certain nombre d'auteurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Le premier s'appelle Nicolas Lebel et il publie Lalali aux éditions du Masque. Je vous lis le sous-titre, à jouer double, on perd de vue sa cible. Et il faut reconnaître que double est très 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 en dessous de la vérité, parce que triple voire quadruple serait beaucoup plus juste. On se fait balader avec Monsieur Lebel comme jamais. Pourtant on retrouve un personnage que l'on connaît, il s'appelle Yvonne Chen. Et Yvonne est quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui n'en veut pas. Il l'ennuie ou ils finissent par mourir. Et il faut reconnaître que Yvonne Chen est particulièrement peu agréable et de ce fait particulièrement drôle. D'un mouvement ample, je vous lis le début, mais rapide, le type ouvrit son imperméable noir et arracha un pistolet mitrailleur de sa ceinture. La scène parut se figer. Dans un ralenti tragique et une pétarade sourde, il arrosa la salle du restaurant d'une giclée de plomb, sa bouche tordue en un rictus mauvais, distribuant la mort à la cantonade, comme qui rigole. Et le téléphone d'Yvonne Chen sonna. Assise en tailleur sur son canapé, elle jura, posa son mojito sur la table basse, près du bol de M&M's, et mit le film en pause. Vous voyez, ils viennent nous balader rien que sur l'entrée du roman, et c'est rien à côté du reste. Parce qu'on va se retrouver là-bas dans les Vosges, avec la troupe des Furies, qu'Yvonne Chen a fait mine d'intégrer pour avoir abandonné la police et avoir intégré la DGSI. Les services de renseignement intérieur. Là-bas, ces furies sont censées éliminer, puisque ce sont des tueurs, l'un des deux frères qui traîne un petit peu la patte pour vendre l'exploitation, ou plus exactement, la cave de l'exploitation. On fabrique là-bas du vin de glace. Je suis pas du tout spécialiste en vin, mais il paraît que la bouteille de ce vin se négocie au-dessus d'un SMIC. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Un vin qui est fabriqué à partir de raisins récoltés par moins 5, moins 10 degrés, pressé la nuit, enfin un truc absolument incroyable. Nicolas Lebel aime bien nous raconter des choses et nous apprendre aussi des choses dans ses thrillers. Mais c'est rien à côté de la façon dont il met en place toute une sorte de vaste arnaque. Lorsqu'elle passe et qu'on est à peu près au milieu du livre, on se dit « Waouh, déjà, on est bien surpris !» Et c'est rien à côté des surprises qui vont venir, parce que vous découvrirez ensuite combien les services secrets ont parfois des petites choses à se reprocher, eux aussi, sur la façon dont ils ont recours à ces fameux tueurs en série, parce qu'on avait tout mis en place pour essayer de les attraper et de les éliminer. Mais je pense qu'ils reviendront, sans vouloir trop abîmer le livre, je pense qu'ils reviendront dans un autre livre, puisqu'à la fin, vous verrez la fin. L'autre livre est très différent, il est signé de Jean-Christophe Tixier, ça s'appelle La Ligne, c'est publié aux éditions Albin Michel. Jean-Christophe Tixier est très très connu pour ses romans pour enfants. C'est un monsieur vraiment remarquable. Quand il vient dans les classes parler de son travail, les élèves sont très très touchés. Et quand il fait des livres pour les adultes, ma foi, c'est très réussi aussi. Dans un village, pas vraiment situé, une ligne est dessinée sur le sol, une ligne blanche qui vient partager le village. Bien entendu, cette ligne va affoler les résidents du village, ceux qui sont là depuis de nombreuses années, et puis ceux qui viennent à peine d'arriver, les Polorats, qui sont là depuis à peine une génération, et puis les Wassner. La réaction face à cette ligne est on ne peut plus différente, ceux qui s'adaptent au changement, ceux qui ne peuvent pas l'accepter. Ceux qui regardent leur père, qui pendant des années a fait le travail que personne ne voulait faire, et qui n'ont pas envie du tout de vivre cela, qui sont même prêts, s'ils le peuvent, à briguer des postes aux élections municipales. Il y a les femmes qui regardent tout ça de loin, il y a celle qui aurait jamais voulu finir là et qui veut tout faire pour que sa fille surtout s'en aille. Il y a celle qui dirige en matriarche dans l'ombre. Il y a la ligne qui pourrait se matérialiser avec un grillage. On lutte contre cela, plus ou moins violemment. Il y a notre époque, assez merveilleusement racontée sous forme d'un conte noir, d'un vrai roman noir. Jusqu'où peut aller la folie des hommes? C'est la question que se pose Jean-Christophe Tixier. Et bien évidemment, il nous la pose à nous, c'est nous qui l'interroge, c'est notre époque qui l'interroge, en s'en rapprochant de plus en plus. Ces trois romans noirs sont des romans qui, le premier se passait à la fin du 19e, le deuxième au milieu des années 60, et regardait les femmes se révolter un peu juste avant mai 68. Et celui-ci, même s'il n'est pas daté, est incroyablement proche de ce que malheureusement, j'ai bien peur, il nous faille vivre, peut-être dépasser. Peut-être que le livre peut changer les choses. En tous les cas, je vous invite à le lire. La ligne de Jean-Christophe Tixier, c'est publié chez Albin Michel. Et je vous rappelle le premier de Nicolas Lebel, Lalali, aux éditions du Masque. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio PFM 99.9, pour une nouvelle chronique 1001 pages, à retrouver aussi chaque semaine sur radiopfm.com.